délégué.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Aujourd'hui, émission un peu à l'arrache. Nous avons eu des problèmes de transport, nous avons eu des problèmes techniques et nous n'avons pas notre technicien habituel, mais Vanna, gentiment, remplace au pied levé Jean-Mi, notre fidèle Jean-Mi, qu'on embrasse. Alors, Pas de Quartier aujourd'hui va parler d'ambassade, très précisément d'ambassade de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, un livre issu d'une collection, Les Dossiers Noirs. Les Dossiers Noirs, c'est une collection animée par une association, Survie, dont le site internet est survie.org. Et je reçois son auteur, Michael Poron. Michael, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors, Les Dossiers Noirs, c'est une vieille collection qui en est à son troisième éditeur. Le premier, c'était L'Harmattan, ensuite, ça a été Agone, et maintenant, c'est Lux, l'éditeur. Et donc, c'est le premier dossier noir édité par Lux. Lux est une maison d'édition québécoise.
Oui, c'est ça, une maison d'édition québécoise qui a une antenne en France, à Toulouse. Et voilà, c'est le premier, effectivement, de la collection Dossiers Noirs qui est publié chez Lux.
Voilà, alors je rappelle son titre, Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française. Alors, mais Michael, dans la revue de l'association Survie, qui s'appelle Billets d'Afrique et d'ailleurs, qui est vendue à l'association ou à la librairie Publico, au numéro, Publico, notre librairie chérie, 145 rue Amelot, la librairie aux trois métros, Oberkampf, Fille du Calvaire et République. Alors, Billets d'Afrique et d'ailleurs, de septembre 2022, parler de ton livre et donner une interview sur trois pages faite par Mehdi Deradj. Et tu expliquais ton propos et le cadre dans lequel tu as travaillé. Alors, pour information, tu travailles régulièrement pour Mediapart avec un confrère qui est Rémi Carayol, que nous avions reçu pour son livre sur l'opération Barkhane et
Serval.
Et Serval. Donc, l'émission est sur le site du groupe Louise Michel. Vous pouvez l'écouter en podcast si cela vous intéresse. Donc, dans cette interview, tu expliques que tu as dû te questionner sur ton background, parce que tu es né et tu as vécu dans un entourage où le racisme n'était pas évoqué. Explique-nous cela.
Oui, je vais revenir très rapidement sur mon parcours, mais j'ai travaillé aussi près de 10 ans dans un hebdomadaire qui s'appelle Jeune Afrique. Et effectivement, depuis 2019, je suis indépendant et je travaille entre autres pour Mediapart. Et tu citais Rémi Carayol, et avec Rémi Carayol, on a également monté un journal qui s'appelle Afrique 21 depuis septembre 2021. Et en fait, l'idée de ce livre, effectivement, m'est venue au fil de mes voyages, en fait, de mes missions, en fait, pour mon travail de journaliste. Donc, j'allais régulièrement sur le continent, même avant d'intégrer l'hebdomadaire Jeune Afrique, puisque mon premier voyage sur le continent, ça devait être en 2007, je crois, au Sénégal. Je suis allé aussi en Ouganda, etc. Et puis après, pendant presque 10 ans avec Jeune Afrique, j'y allais très régulièrement, quasiment tous les mois, j'étais sur le continent pour faire des reportages. Des reportages qui n'avaient rien à voir avec le sujet du livre, qui étaient sur des sujets très divers, que ce soit l'économie, la politique, ce genre de choses. Et effectivement, moi je viens d'un village dans le centre de la France, où la question du racisme, la question également coloniale, c'est-à-dire le passé colonial de la France, ce genre de choses ne sont pas abordées, n'étaient pas abordées en tout cas, très peu à l'école, j'en ai très peu de souvenirs. J'étais dans un village un peu dans une bulle où en fait on n'avait pas de propos autour de la problématique des coloniales ou de la problématique du racisme. Donc c'est quelque chose finalement que j'ai découvert, en tout cas sur le tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème, non seulement en France, mais aussi en allant sur le continent, je me suis confronté à ces choses, quoi. C'est-à-dire la position en tant que blanc français dans un pays africain, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais ça a été un long parcours, en fait, intellectuel, une déconstruction, j'ose le terme, c'est-à-dire une déconstruction intellectuelle, pour me repositionner en tant que Français qui vient d'un pays qui a quand même colonisé un certain nombre de pays d'Afrique et des pays dans lesquels j'allais régulièrement. Et lors de ces missions, j'étais souvent en contact avec la diplomatie française pour diverses raisons. C'était soit pour le cadre d'un reportage, soit pour prendre des informations. Et j'ai commencé à me poser des questions sur le comportement de la diplomatie française dans les anciennes colonies d'Afrique. Voilà, et c'est de là qu'est née cette idée. Et j'ai commencé à dévoiler quelques affaires, d'abord à Jeune Afrique, puis à Mediapart, sur certains diplomates en Afrique. Et donc en enquêtant, je me suis rendu compte que finalement l'héritage, c'est le sous-titre du livre, l'héritage colonial de la diplomatie française. Je me suis rendu compte que l'héritage colonial finalement était très fort dans la diplomatie française en Afrique, et que mais finalement, de l'institution en elle-même jusqu'à la formation des diplomates, en passant et ensuite par la mission des diplomates dans ces pays d'Afrique de l'Ouest et centrale principalement, avait un prisme qui était directement lié finalement à cette histoire de la colonie.
Bien. Alors, Michael, on va commencer. Ton livre commence sur les chapeaux de roue. Et il renvoie à un autre dossier noir qui, lui, est publié chez Agone, qui est le pompier pyromane de David Maugé sur la Côte d'Ivoire. Mmh. Et tu commences par dresser le portrait d'un consul et d'un ambassadeur dans la crise ivoirienne autour de Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire. Mais il n'était pas président à l'époque, c'était Gbagbo. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous présenter cet épisode qui illustre bien le profil des ambassadeurs et le profil de ceux qui sont censés représenter notre pays en Afrique francophone.
Et oui.
Voilà.
Oui. Oui, effectivement, je raconte une histoire qui... Alors, c'est une histoire qui est plutôt... Enfin, qui était plutôt connue, mais pas tellement dans ses détails. J'ai eu la chance d'avoir des sources qui ont vécu cette affaire de près et qui ont pu me raconter un peu les coulisses. Donc on est en 2002 et on a une crise en Côte d'Ivoire. Je reviens un petit peu sur les fondements de cette crise. Hein. On a une histoire d'ivoirité qui est mise en avant, de nationalisme. Et on a Alassane Ouattara qui est quand même un homme politique déjà très connu en Côte d'Ivoire à cette époque-là, puisqu'il avait été Premier ministre de Fouad-Boigny. Et on a effectivement en 2002 Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Et on a une crise avec des violences qui éclatent en 2002. Et à ce moment-là, certaines parties, en tout cas politiques de Côte d'Ivoire, accusent finalement le clan Ouattara d'avoir été celui qui a déclenché plus ou moins ces violences, puisqu'on l'aurait empêché de participer à l'élection présidentielle. Et donc, selon...
Alors, il faut expliquer pourquoi, parce qu'il est Mossi et voilà. De parents nés au Burkina Faso.
Voilà, et dans ce contexte d'ivoirité, on considérait qu'il n'était pas complètement ivoirien, et donc il ne pouvait pas accéder au poste suprême. Voilà. À ce moment-là, en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, il y a une crise, et donc Alassane Ouattara craint pour sa vie. Il le fait savoir, il y a effectivement des émeutes, il y a des hommes importants qui sont attaqués, il y a des morts. Et donc, à l'ambassade de France, on décide qu'il faut peut-être intervenir pour éviter que Alassane Ouattara ne soit attaqué, ou en tout cas ne soit arrêté. Alassane Ouattara va se barricader dans l'ambassade d'Allemagne, qui est pas très loin de l'ambassade de France, de la résidence de France plus exactement. Et c'est là que nos deux diplomates, l'ambassadeur de France de l'époque et son... alors c'était pas son consul, c'était en fait son conseiller, décident d'aller le chercher, de le récupérer à l'ambassade de France, puis de l'héberger à la résidence d'Allemagne, puis de l'héberger à la résidence de France. Et donc en fait, à travers cette... Et donc il va y rester 3 mois. Il va être logé, nourri... par la France, en fait, donc au sein de la résidence de France, durant toute la crise, protégé, etc. Et ensuite, il va être évacué vers Paris par les forces spéciales françaises. Donc en fait, à travers cet exemple assez explicite, assez parlant, j'ai voulu mettre en avant dans cette première partie, effectivement, le réel pouvoir en fait, d'un ambassadeur de France dans un pays de son ancienne colonie. Pouvoir qui, quand on discute avec certains ambassadeurs de France, est toujours minimisé. C'est-à-dire qu'ils disent qu'un ambassadeur n'est autre qu'un haut fonctionnaire, un gestionnaire, et n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir particulier. Mais à travers cet exemple, j'ai voulu, et d'autres que je raconte, mais très rapidement, j'ai voulu montrer qu'en fait, dans ces pays, plus qu'ailleurs dans le monde où il y a des ambassades de France, dans ces pays des anciennes colonies, l'ambassadeur de France avait encore un pouvoir très important et pouvait intervenir dans la destinée d'un pays. Puisque au final, l'évacuation d'Alassane Ouattara à Paris a permis à Alassane Ouattara finalement de continuer son combat politique, de pouvoir continuer son opposition. Et on connaît ensuite le dénouement en 2011 quand Laurent Gbagbo
est délogé
par la France une fois de plus. C'était Monsieur Simon qui était donc l'ambassadeur de France à l'époque en 2011.
C'était Pain qui était l'ambassadeur de France pour Ouattara.
En 2002, c'était Pain. C'était pas Pain l'ambassadeur. Pain c'était le conseiller.
Ah oui, pardon.
Non, c'est pas grave. Et donc en 2011, Alassane Ouattara est clairement installé par la France à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc on voit bien que en 2002, si la France n'était pas intervenue, on ne sait pas ce qui serait arrivé. On ne sait pas d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que finalement il ne risquait pas tellement pour sa vie, que l'intervention était peut-être exagérée. Mais en tout cas, on voit bien que cette intervention, in fine, a permis à Alassane Ouattara de revenir ensuite, de revenir en force et surtout de s'installer au pouvoir en 2011. Il aurait peut-être pu gagner les élections aussi si la France n'était pas intervenue, mais le fait est qu'à un moment donné, dans sa carrière politique, et donc dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la France, donc c'est assez contemporain, c'était il y a 20 ans, la France est intervenue à travers son ambassade dans la destinée du pays.
Et elle intervient toujours, puisque Alassane Ouattara en est à son troisième mandat, parce que justement le dauphin qu'on lui avait imposé meurt brutalement.
Oui, ce que je raconte, c'est un peu l'histoire qui continue, qui se répète. C'est-à-dire que Alassane Ouattara décide de prendre un dauphin qui effectivement meurt brutalement. Et plutôt que de remettre les clés du pouvoir au bout de deux mandats en jeu, c'est-à-dire avec une élection démocratique en disant « bon, bah, ce n'est plus mon affaire puisque j'ai fait mes deux mandats et je ne peux plus me présenter », il décide finalement de se présenter contre la Constitution à un troisième mandat. Troisième mandat qui n'a pas été condamné par la France.
Surtout pas.
Donc là, on est plus dans une abstention d'intervention, si je puis dire, alors qu'elle le fait, par exemple, pour d'autres chefs d'État africains, comme par exemple Alpha Condé. La France avait critiqué son troisième mandat, etc., etc. Mais Alassane Ouattara, pas de problème. Donc en fait, il y a eu ce deux poids, deux mesures. Et donc la France, on peut dire aujourd'hui, continue de soutenir en fait Alassane Ouattara. Et l'ambassadeur de l'époque, qui était donc Gilles Huberson, est intervenu clairement en faveur d'Alassane Ouattara. D'ailleurs, il disait lui-même que son candidat, c'était Alassane Ouattara.
Alors, pour information, pour ceux que les événements de Côte d'Ivoire intéresseraient, il y a le dossier noir de survie, un pompier pyromane de David Mogé, qui est en vente à Publico aussi, et qui est, lui, publié chez Agone. Donc, c'est un livre à la couverture noire, et avec une image extraite du conflit ivoirien. Alors, autre ambassadeur, celui-là qui a laissé un souvenir impérissable au Rwanda, Marlow.
Oui, mais j'aborde très peu cette question dans mon livre.
Ah oui, mais ce serait bien d'en parler quand même pour montrer aux auditeurs de quoi est capable un ambassadeur. Un ambassadeur dans un conflit, pire, dans un génocide, son rôle.
Alors, c'est intéressant parce que M. Marlow a d'ailleurs est sorti de sa réserve et a sorti un livre il y a quelques mois.
Voilà.
Dire l'indicible, c'est le nom de son livre, dans lequel il donne sa version des faits.
on peut le croire.
Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement... moi, j'exclus... au départ, je voulais m'intéresser aussi au Rwanda, mais déjà, c'est un contexte extrêmement complexe, puisque la question du génocide, la question du rôle de la France n'est toujours pas complètement tranchée. C'est-à-dire qu'il y a encore des chercheurs qui travaillent.
Et il y a un dossier noir là-dessus.
Oui,
J'avais reçu Raphaël Doridan et François Graner.
Voilà.
Donc, l'émission est sur le site du groupe Louise Michel.
Pourquoi ? Parce que la France continue de ne pas tout dire et de cacher certaines archives. Donc, on cherche toujours à identifier exactement le rôle de la France. Ce qui est sûr, c'est que... et puis, par ailleurs, j'ai souhaité mettre de côté parce que le Rwanda n'était pas une ancienne colonie française.
Non.
Mais à ce moment-là, c'est vrai que le Rwanda est un pays important pour la France, puisque situé dans une zone anglophone, en tant que pays francophone, etc. Et au moment, effectivement, du génocide, l'ambassadeur Marlow va notamment organiser une réunion au sein de l'ambassade de France avec des acteurs politiques rwandais qui créent ensuite un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire va s'annoncer être un gouvernement génocidaire. Donc en fait, effectivement, on peut, à travers cet exemple, qui est documenté, largement documenté, se dire que quand même, l'ambassade de France... et son ambassadeur reste en fait un endroit pivot pour la politique d'un pays africain.
Et tu le démontres très bien pour le cas d'un pays qui lui n'en sort toujours pas, c'est le Togo.
Oui, alors le Togo, c'est, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus verrouillés. On a à la tête de ce pays depuis pas mal de temps, depuis 1967 en fait, la même famille, c'est-à-dire d'abord le père Yadema Yassingbé, et aujourd'hui le fils Faure Yassingbé. Quand on va dans ce pays, moi pour cette enquête je suis allé justement à cette occasion au Togo, à Lomé, on voit que la France est présente partout, à travers ses militaires mais également à travers ses intérêts économiques. Et effectivement, l'ambassadeur de France au Togo, à Lomé, a un poids extrêmement fort dans ses relations. Il a des relations directes avec le président, Faure Gnassingbé. Il est souvent reçu, ou en tout cas quand il le demande, il l'est. Parfois pour des choses vraiment pas importantes, qui ne relèvent absolument pas du rôle d'un président. D'ailleurs, un ministre qui a souhaité garder l'anonymat togolais m'expliquait que lui-même était assez choqué en fait de voir son président recevoir l'ambassadeur de France pour une histoire de construction d'école dans un village, enfin quelque chose qui le président ne devrait pas avoir le temps de gérer ce genre de choses, mais ça explique bien cette position extrêmement importante et centrale finalement de la diplomatie française et de l'ambassade et de l'ambassadeur de France dans ce pays.
Alors il y a aussi le rôle qu'a joué l'affaire Pegasus, NSO, la société israélienne d'écoute, qui a mis en surveillance beaucoup de journalistes. Tu l'évoques par rapport au Togo. Un des journalistes qui a...
Oui, oui.
Voilà. Si tu veux revenir là-dessus pour expliquer.
Je ne détaille pas exactement l'affaire NSO, mais il est vrai que le Togo pratique... c'est une dictature qui pratique la surveillance massive en fait, de ses opposants et de ses journalistes. Et quand a éclaté l'affaire NSO, qui est ce logiciel israélien qui est vendu clé en main, un logiciel d'espionnage vendu clé en main, dont usent et abusent certains potentats africains et pas que, mais notamment africains, dont le Maroc et donc le Togo. Et il se trouve que parmi mes témoins au Togo, je rencontre un journaliste d'investigation qui s'appelle Ferdinand Ayité. Et Ferdinand Ayité, en fait, faisait partie des journalistes espionnés par ce logiciel. Il s'en est rendu compte grâce notamment à Amnesty International, qui a fait un gros travail pour identifier
les cibles.
Et donc Ferdinand Ayité était sur cette cible. Et ce qui est intéressant, c'est que Ferdinand Ayité est le directeur de la publication d'un journal qui s'appelle L'Alternative. Alors qui, selon le pouvoir et selon la diplomatie française, est marqué comme un journal d'opposition, mais c'est juste certainement plutôt un journal, indépendant, et qui essaie de faire son travail correctement. Et ce journal, il se trouve que, hasard ou pas, a été attaqué par l'ambassade de France aussi, il y a quelques années, par l'ambassadeur de France, parce qu'il avait, il y avait eu un éditorial assez virulent sur la France-Afrique et les, on va dire, les remugles de la France-Afrique aujourd'hui, à travers Monsieur Paris, qui est le Monsieur Afrique de, d'Emmanuel Macron, et l'ambassadeur de France de l'époque au Togo. Et plutôt que de faire un droit de réponse, qui est la première étape finalement dans quand on conteste une information dans un journal, l'ambassadeur a décidé, Monsieur Vizy a décidé d'aller directement à la HAC, qui est en fait la haute autorité de régulation, on va dire, de la communication et de la communication. Et il savait très bien que cette HAC était à la main du pouvoir. Il pouvait pas l'ignorer, et que c'était un outil plutôt de censure plutôt qu'un outil de régulation. Et donc il est allé déposer un dossier que j'ai récupéré, que j'ai lu et analysé, et il a obtenu même pas un avertissement, il a obtenu carrément la suspension de ce journal, l'Alternative, et d'un autre journal qui avait repris les mêmes informations, et donc de son directeur de la publication, Ferdinand Ayité. Et j'en profite pour passer un mot, c'est que Ferdinand Ayité a été encore arrêté récemment, très récemment. Voilà. Donc en fait, on est dans une dictature soutenue par la France, et dont les diplomates aussi jouent le jeu de cette dictature, puisque à partir du moment où ils décident d'aller porter plainte contre la HAC, c'est qu'ils souhaitent censurer également les journaux indépendants de ce pays.
Alors, il a été arrêté pour quel motif? Tu le sais peut-être?
Alors, j'ai pas de détails, hélas, sur les motifs de son arrestation, mais je sais que le Togo actuellement est en train de réformer complètement son code du journalisme et de la presse, ce qui risque d'ailleurs de faire fermer en fait un certain nombre de journaux indépendants, en mettant notamment des critères extrêmement durs pour obtenir l'agrément d'être journaliste et d'ouvrir un journal. Donc Ferdinand Ayité, c'est quelqu'un qui publie souvent des articles à charge contre, des enquêtes en fait à charge contre le pouvoir, et donc c'est quelqu'un qui dérange. Mais il a été arrêté, et j'ai demandé d'ailleurs j'ai interpellé l'ambassade de France sur les réseaux sociaux en leur demandant de donner des informations sur l'arrestation de Ferdinand Ayité. J'ai jamais eu de réponse.
À mon avis, tu n'en auras pas. Je peux me tromper, mais tu n'en auras pas. Bien. Donc, là, nous avons fait le tour très rapidement, parce que nous avons commencé l'émission un tout petit peu en retard, de ta première partie. Je voudrais que l'on rappelle deux choses. Au Sénégal, ça c'est un point sur lequel on va revenir, parce qu'au Sénégal il se passe beaucoup de choses en ce moment, malheureusement pour les Sénégalais. À Rufisk, à une trentaine de kilomètres de Dakar, se trouve la plus grande base d'écoute et qui relaie même les télécommunications des sous-marins dans l'Atlantique, il faut le savoir. Et Djibouti reste notre plus grande base à l'étranger.
Militaire
à l'étranger. Donc les ambassadeurs de ces deux pays jouent un rôle important, mais ça on va l'examiner dans la deuxième partie de notre émission. Là on va demander à Vanna s'il est possible d'avoir une pause musicale, et on va revenir ensuite en deuxième partie.
Another day. Ooh, I want just one more day, though. Darling, you can let me have another day. And I can do anything that you want me to do. Oh. I've got to get me one more day now. You can let me have that one more day. I want this day and the day after and the day after. And I want all the days. And I want all. I want you here by my side. And I don't want you to leave me. My darling, I want to love you for the rest of my life. We'll let the band take just a little bit of this. Oh, want you here by my side, and I don't want you to leave. My darling, I'm gonna love you for the rest of my life. But I got to get me just one more day, honey. Just one more day, now, Lord. I want today and the day after and the day after. And I want all the days, and I want all of them. I want you here by my side, and I don't want you to leave. And my darling, I'm gonna love you, love you, love you. I've got to get me just one more day, just one more. Oh man, you can let me have it, yeah, man. I got to get me just one more day, yeah. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much. And right now, we're going to try to put you in a little groove. Your thing goes something like this.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission sur les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, avec mon invité Michael Poron. Michael, dans la deuxième partie, tu dresses le portrait sans phare de trois ambassadeurs. Ah, ça en vaut... Ça vaut le détour. Alors, commençons par le premier, Maurice Delaunay. Et tu le fais, si j'ose dire, à travers leurs écrits. Parce que ça, non content de faire des dégâts, ils écrivent. Ils laissent des traces. Ils sont fous, ces ambassadeurs. Ils sont fous.
Oui, alors... en fait, c'est effectivement, c'est pas tout à fait des portraits dans le sens où je vais assez vite sur le parcours de chacun d'eux parce que c'est quelque chose qui est relativement disponible. Mmh. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de lire leurs livres parce que beaucoup d'ambassadeurs, en fait, se découvrent une passion quand ils arrêtent d'être ambassadeurs pour l'écriture, et donc beaucoup vont écrire des livres sur leur passé d'ambassadeur et raconter raconter leur histoire, leur vérité, ouais. Souvent en omettant beaucoup de choses.
Oui, ça.
Voilà. Et Maurice Delaunay est particulier là-dessus, puisque lui, il a. Alors j'ai choisi trois livres finalement, parce que vraiment il y en a beaucoup, mais trois qui finalement sont emblématiques et sont à peu près.
Trois générations différentes.
Voilà, c'est trois générations différentes, à peu près. Et le premier, Maurice Delaunay, donc lui, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière, notamment dans les colonies, puisqu'il a été administrateur d'outre-mer au Cameroun, après la Seconde Guerre mondiale.
Donc il a participé au massacre.
Donc voilà, ce que je raconte déjà et ce qu'il omet de raconter, bien sûr, il parle un petit peu de cette répression, mais en fait il n'utilise jamais ce mot-là, il ne parle pas de guerre, etc. Il parle d'insécurité, il parle de ce genre de choses. Et bien sûr, il omet de raconter que lui-même a participé très activement. D'ailleurs, c'est documenté dans un livre excellent qui s'appelle Cameroun, hein, de Thomas Deltombe, entre autres. Ils sont plusieurs auteurs. Où il a créé des camps d'internement, etc., cachés.
Et donc, 500 000 victimes, à peu près, recensées.
Emmanuel Macron a annoncé récemment qu'on ouvrirait les archives pour déterminer ce qui s'est réellement passé.
Alors qu'en fait,
il y a déjà eu des livres qui racontent que c'était vraiment une guerre et qu'on a massacré quand même un certain nombre de personnes. Au Cameroun, un certain nombre de Camerounais. Donc déjà, ça commence fort, en fait. Il raconte une partie, en fait, de la vérité dans son livre. Ensuite, souvent dans ses livres, et Maurice Delaunay est exactement là-dedans, il parle, en fait, de sa vie, de sa vie quotidienne en Afrique. Et notamment, il y a la question de la nature, souvent, qui est mise en avant. Donc l'Afrique, en fait, serait une nature, d'abord, avec ses animaux, ce genre de choses. Et lui, c'était un chasseur. Donc, en fait, il raconte ses parties de chasse. Voilà. Bref, quelque chose de vraiment totalement déconnecté, finalement.
Ah, complètement.
Par rapport, à la situation locale quand il y est. Donc, il devient ambassadeur. Je suis allé un peu vite, mais... Donc, les indépendances arrivent.
Et finalement, il est obligé de restituer son bon palais, voilà, il s'en remet pas.
Et voilà, il restitue son palais d'administrateur colonial, il s'en remet pas. Et d'ailleurs, il raconte qu'à Madagascar, c'est pareil, il se remet pas à un moment donné d'avoir dû rendre le palais, mais tardivement dans les années 70, alors que la plupart avaient été rendus début des années 60. D'ailleurs, il dit, je comprenais pas trop ce que représentait le fait d'être un ambassadeur dans nos anciennes colonies. Donc on voit bien que pour lui, il n'y a pas de basculement, qu'en fait, on est dans une continuité et que il n'y a pas... son rôle doit rester plus ou moins le même, c'est-à-dire garder l'influence de la France.
Les colonies existent toujours.
Et que finalement, si elles n'ont plus ce nom, on doit garder la mainmise sur ces pays. Et l'anecdote du Gabon est très intéressante parce qu'il a été au cœur finalement de l'élection de... après Léon Mba d'Omar Bongo, puisque Léon Mba décède en 65 et finalement c'est Omar Bongo qui prend la suite avec le soutien, l'appui et même, on va dire, c'est la stratégie même dessinée par la France, c'est-à-dire un homme de confiance. Donc on retrouve des archives qui expliquent où ils s'interrogent, quelle est la personne la plus intelligente selon eux et qui défendrait le mieux les intérêts de la France. Enfin voilà, on est vraiment dans l'installation finalement d'un homme de la France. Et donc Omar Bongo prend le pouvoir.
Son fils a pris la suite.
Et aujourd'hui, on voit bien que la décision qui a été prise en 1965 de mettre Omar Bongo fait qu'aujourd'hui, on a toujours la famille Bongo au pouvoir. Donc, on est vraiment dans une continuité avec des choix qui remontent quand même assez loin. D'où cet héritage, encore une fois, colonial dont je parle. Et donc, en fait, il dit lui-même, mon rôle, c'est de faire en sorte que la France garde son influence. Il se félicite, par exemple, que la décision soit prise au Gabon d'interdire toutes les langues local et que ce soit le français qui soit imposé. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses. Et il le dit de manière très décomplexée. Et il termine son livre en disant, il l'a écrit dans les années 80, je crois, début des années 80. Et il termine son livre en disant, de toute façon, je sais très bien que je serai critiqué, parce qu'on aura un certain nombre de personnes qui voudront effacer l'histoire. En fait, on aurait envie de lui dire, on n'a pas envie d'effacer l'histoire, on a juste envie de remettre la vérité, en fait, dans l'histoire.
Notamment à propos de son bras droit, Ruben Uniobe, qui a été massacré.
Oui, voilà, il parle de son bras droit qui a disparu, qui a été tué, grande figure de la résistance camerounaise, voilà. Et sans jamais...
lui donner son titre véritable.
Et puis mettre en avant le fait que c'est la France qui l'a tué.
Oui.
Voilà. Donc il dira juste qu'il est... et qu'il meurt dans des affrontements, mais il ne dit pas pourquoi. Et par qui.
Voilà. Alors, ensuite, on prend la direction d'un autre ambassadeur, Michel
Lunevin.
Voilà.
Michel Lunevin, je passe assez vite dessus, mais je trouve que c'était une bonne transition entre le premier et le dernier dont on va parler après. Il assume complètement, en fait, la France-Afrique. À tel point qu'il titre son livre, s'appelle « Un ambassadeur en France-Afrique ». Donc il annonce la couleur, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Jacques Foccart, qui est le...
On le voit à photo en train de travailler avec Jacques Foccart dans son avion.
Dans son avion, c'est la couverture de son livre. Donc c'est un héritier totalement de Foccart, il l'assume complètement. Moi, ce qui m'a intéressé dans son livre, alors au-delà des anecdotes de vie quotidienne d'ambassadeur, comme d'habitude, ce qui m'a intéressé dans son livre aussi, c'est le questionnement qu'il a sur la question d'ingérence. C'est-à-dire qu'en fait... il admet être intervenu dans un certain nombre de moments cruciaux pour certains pays dans lesquels il est allé, comme au Niger, par exemple, ou en Centrafrique.
Niger par rapport à l'uranium.
Entre autres, mais et surtout, il se dit, voilà, je suis intervenu à tel moment, à tel moment, à tel moment. Il a donc eu un rôle crucial, souvent, au moment des élections présidentielles, ou au moment des crises. Et lui dit, si on veut me taxer d'ingérence... très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand souvent...
Il en fait une fierté, en plus.
En fait, il en fait quelque part comme une mission. C'est-à-dire qu'en fait, il réfute globalement ce terme d'ingérence. Il considère que ça fait partie de son travail d'avoir ce rôle. Mais il dit, si on veut me taxer d'ingérence, eh bien, très bien, c'est de l'ingérence, si on veut. Mais en fait, quelque part, c'est pas, c'est quelque chose pour lui qui est l'ingérence. Pour lui, c'est quelque chose de trop fort, en fait. Quelque part, c'est comme s'il a, il avait pas le droit. Alors, mmh. en fait, il considère qu'il avait le droit, que c'était même son devoir finalement d'intervenir et de préserver les intérêts de la France. Voilà, voilà comment se positionne Michel Luvin, en toute complètement décomplexé par rapport à ça. On peut au moins lui rendre grâce par rapport à ça, c'est-à-dire dire au moins il dit les choses telles qu'elles sont et voilà. Et je pense que d'ailleurs c'est probablement l'un des diplomates qui a écrit un livre les plus honnêtes dans son récit.
Oui, les plus honnêtes entre guillemets.
Oui.
Voilà. Donc je dis bonjour à Julie qui vient de nous rejoindre. Julie, bonjour. Julie a été stagiaire à Publico, notre librairie chérie. Donc elle va assister à l'émission. Voilà. Alors, dernier ambassadeur, Simon.
Alors, Jean-Marc Simon, oui. D'ailleurs, j'ai titré cette partie « Un ambassadeur, un vrai ».
Oui.
Jean-Marc, puisque quand on discute avec un certain nombre de diplomates, beaucoup disent Jean-Marc Simon, c'est le dernier grand ambassadeur qu'on ait eu.
Etc., oui, paraît-il.
Voilà. En fait, mais c'est vrai que si on regarde les choses de manière très froide, hein, il a un parcours assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a vraiment parcouru l'Afrique énormément dans divers postes avant même d'être ambassadeur. Mmh. Il était très impliqué. Je pense que c'était quelqu'un fondamentalement passionné aussi par le continent. Je pense qu'il le connaissait.
Je pense que le continent s'en serait passé. Hein.
Alors après, voilà, mais je dis, quand on regarde les choses de manière très froide, hein, voilà. Mais je raconte que sa passion remonte à quelque chose qui est fondateur pour lui et qui est intéressant dans la personnalité ensuite. C'est qu'il raconte dès les premières pages. Son premier contact avec l'Afrique, c'est quoi ? Ce sont des photos d'un aïeul à lui, au Sénégal, donc pendant la colonie, avec le casque colonial. Et donc c'est quelque chose qu'il raconte comme de nostalgique. C'est quelque chose qu'on sent dans son écriture, que cette photo, en fait, lui a donné envie de voyager, mais donc avec ce casque colonial sur la tête. Et ensuite, il raconte qu'il a fait un premier voyage à l'âge de 15 ans sur un bateau, et donc il arrive au Sénégal et il rencontre le premier ambassadeur de France à l'époque au Sénégal, premier ambassadeur en termes de titre, je parle, c'est-à-dire après l'indépendance, qui s'appelle Étienne de Bois-Lambert, qui était un sacré personnage, un grand résistant, mais aussi quelqu'un qui, pareil, n'a jamais mis de côté la colonie. Et donc, voilà, il garde ce souvenir. Et donc, tout le long de sa carrière, ça, c'est quelque chose qui va le suivre, finalement. Cette idée que la France, dans ses territoires, doit avoir un rôle central dans la destinée de ces pays. Mmh. Et évidemment que la France, ces pays ont une importance capitale pour l'influence de la France. Et donc il va intervenir et être quelqu'un de clé dans beaucoup de conflits. Il va intervenir en Centrafrique notamment, où il va quasiment gérer les élections, gérer les
autour de Bozizé.
Voilà. Et puis surtout, on le connaît, en 2011, c'est lui qui est en Côte d'Ivoire et qui coordonne finalement quelque part la traque de Laurent Gbagbo.
Tout à fait.
Et de sa femme Simone. Donc on voit que c'est quelqu'un. Alors j'écris aussi que voilà, tout comme Delaunay 40 ans plus tôt, il a aussi cette fascination pour la nature de l'Afrique, pour les animaux, et donc quelque part finalement c'est un terrain de jeu. C'est ça que je raconte, en fait, c'est que pour ces ambassadeurs, les anciennes colonies françaises, c'est avant tout un terrain de jeu. Pourquoi un terrain de jeu? D'une part, pour ces questions, je parle de chasse, etc., mais voilà, et aussi un terrain de jeu politique, c'est-à-dire qu'ils estiment que ce qui les passionne, finalement, c'est d'être actifs, donc être des acteurs, finalement, dans ces pays, et donc d'être dans l'ingérence totale et complète et permanente. Et c'est quelque chose qui vraiment les excite. Donc, on peut dire que pour eux, les anciennes colonies françaises, c'est en Afrique, c'est un terrain de jeu.
Il n'y a pas que les ambassadeurs qui sont emblématiques. Il y a aussi les bâtiments. J'ai apprécié les chapitres où tu as parlé au Palais des Colonies. Nous avons, le 28 septembre 1958, on sait que De Gaulle installe la coopération entre la France, installe la France-Afrique officielle, sauf Sékou Touré en Guinée. Capitaine Guinée-Conakry, qui refuse parce qu'il se doutait qu'il allait être asservi. Et les lieux où sont installées les ambassades de France n'ont rien d'anodin. Et ça, tu l'expliques très bien dans ton livre.
Oui, alors c'est vrai que c'était pas évident au départ de parler de ce sujet, à savoir de parler de la diplomatie française à travers ces bâtiments. Mais pour avoir du coup, comme je l'expliquais au début de l'émission, pour avoir été dans un certain nombre de ces pays, et j'ai pu remarquer qu'en fait l'ambassade de France et la résidence de France sont des bâtiments qui sautent aux yeux. Enfin, c'est des bâtiments qui ont une certaine, qui sont très imposants.
Des blockhouses.
C'est devenu des blockhouses par la force des choses, mais au départ c'était relativement ouvert, enfin fermé pour les locaux.
Ah oui,
mais, mais on les voyait surtout. Il fallait qu'on les voie. Donc souvent il y avait une réflexion autour de l'architecture. Il fallait que. Et alors je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que ce n'est pas simplement la France. C'est-à-dire que au XXe siècle, on considère que l'architecture c'est un moyen de domination culturelle, en tout cas d'influence culturelle.
Donc c'est du soft power.
C'est du soft power. Il faut que l'architecture
en impose
et surtout voilà et en impose et fasse l'admiration. C'est écrit comme ça, je crois, un architecte du 19e qui dit ça. Il faut que ça suscite l'admiration chez les autochtones. Voilà.
Les pauvres.
Donc en fait, il y a quand
comme
même.
Si, comme si leur art à eux ne suscitait pas l'admiration.
Voilà.
Mais bon, passons.
Et donc, il y a cette volonté d'en imposer. Et, de, voilà. Et puis, évidemment, ça prend encore une autre forme au moment des indépendances, où la France, donc, rend les palais de gouverneurs aux pays nouvellement indépendants.
Où les présidents s'installent dans les palais.
Où les présidents africains viennent s'installer.
Et donc, les ambassadeurs s'installent à côté des palais.
Et alors, donc, la question se pose, où est-ce qu'on va mettre les représentants de la France surtout, il faut que, donc, on réfléchisse. Moi, je suis allé dans les archives, j'ai vu pas mal d'échanges, notamment sur le Sénégal, sur la construction de la résidence de France. Donc, il y a beaucoup de réflexions autour de cette question de prestance. Et d'influence. Et donc on décide de construire des bâtiments dans des... Alors, aujourd'hui, on regarde, moi j'ai fait un petit calcul sur quelques pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, pas une ambassade de France est à plus de 1 km, on va dire, du palais présidentiel.
Tout à fait.
Un kilomètre,
c'est
un kilomètre et demi.
C'est pratique quand on manifeste contre la France. On va du palais présidentiel à l'ambassade. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper de cible.
Et donc, alors ça s'explique par plusieurs choses. Je pense qu'il y a, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, il y a une réflexion de ne pas être très loin du pouvoir.
Ah non, ça c'est sûr.
Ça c'est clair, donc de pouvoir accéder assez facilement au président très rapidement. Et mais aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des quartiers qui étaient ségrégués. C'est-à-dire qu'on avait les quartiers européens, et en fait, c'était là qu'on trouvait
le centre-ville,
souvent qui était voilà, ségrégué et qui était les quartiers européens. Donc en fait, on cherchait des terrains pour s'installer dans ces quartiers prioritairement. Et évidemment, la France s'est servie, je raconte aussi, un petit peu avant 1960, donc en fait, ce qui lui permettait d'avoir les terrains pour rien.
Oui.
Donc des très beaux terrains qui aujourd'hui sont des terrains qui valent extrêmement cher. Et puis, une nouvelle fois, toujours avec cette idée qu'on ne partait pas. Et c'est bien ce qu'on reproche aujourd'hui à la France, c'est-à-dire de dire, en fait, vous dites que vous êtes parti en 1960, en fait, vous n'êtes jamais parti. Et donc, c'était bien.
Et on ne veut pas partir.
Et donc, dès la construction, quand il a fallu voilà, construire ces centres administratifs d'une part et ces résidences d'autre part, qui sont les lieux de réception de réception de la France, il fallait qu'on voilà construire quelque chose de voyant, d'admiratif et finalement de pompant.
Et de tape à l'œil.
Et de tape à l'œil.
Pour certains. Bien, merci Michael. Alors, donc, tu vas nous dire comment tu as réussi à avoir quelques archives sur les ambassades techniques. Parce qu'à mon avis, vu que les pièces, et surtout je pense à la pièce dédiée à la DGSE dans les ambassades, ça n'a pas dû être facile d'avoir les archives.
Alors évidemment, je n'ai pas retrouvé les plans. quelques plans partiels aux archives de Nantes. Où j'ai passé quelques temps, mais surtout après j'ai discuté avec des architectes, voilà, des gens qui ont travaillé qui ont travaillé souvent à la réfection des ambassades, puisque ceux qui les ont créés ne sont plus là aujourd'hui souvent. Donc j'ai rencontré quelques personnes qui ont pu me raconter comment était pensée l'architecture d'une ambassade de l'intérieur, avec notamment cette pièce très spéciale qui est une pièce donc sécurisée. Et d'ailleurs une pièce à laquelle ils n'ont pas accès.
Tout à fait.
En fait, il la prévoit dans les plans.
Voilà.
C'est une pièce qu'il livre nue. avec une porte sécurisée, des murs sécurisés, et ils n'interviennent pas du tout à l'intérieur. C'est-à-dire que la pièce est livrée nue. Et donc cette pièce est réservée aux agents de la surveillance, des services secrets, de ce qu'on appelle aujourd'hui la DGSE.
Voilà, la Direction Générale de Surveillance.
Et dans lequel on va mettre les systèmes d'écoute, les systèmes, etc. À l'époque, les systèmes de transmission, voilà. etc. Et donc effectivement, c'est marrant parce qu'il me racontait, moi j'ai pas pu les voir parce que évidemment c'est interdit, mais il me racontait donc que quand ils fournissaient les plans pour construire ou pour faire des rénovations, ce genre de choses, il y avait cette pièce qui apparaissait sans cotation, sans explication. Donc une pièce vide, voilà.
Bien. Bon, mais écoute, merci Michael. Je vais demander à Vanna s'il est possible d'avoir une pause et on va attaquer la troisième et la quatrième partie de ton ouvrage qui est consistante et qui explique que dans les anciennes colonies, tout est permis.
Intéresse, pour peu qu'on le caresse, ou à plus forte raison, si je lui donne un poisson, c'est la jubilation. La joie de ton chat se lit dans tes prunelles. Je sais bien qu'il n'est pas replu de si peu, mais je vois dans tes yeux qu'il est heureux. Quand il est heureux, tu en deviens plus belle. Tu as beaucoup plus d'éclat que ne ferais-je pas pour la joie, pour la joie, pour la joie de ton chat. Tra-la-la-la, car ton chat est aussi à moi.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie consacrée au livre de Michael Poron, Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française. Alors Michael, tu as toute une partie, la troisième partie, très explicite, dans les anciennes colonies tout est permis, et on va commencer par une sinistre affaire de noyade d'une jeune femme dans une piscine diplomatique.
Oui, alors je vais peut-être rappeler un peu le contexte, mais Lors de mon enquête et lors de mes missions pendant presque 10 ans sur le continent africain, j'ai recueilli beaucoup de témoignages sur, on va dire, les mœurs des diplomates français.
D'ailleurs, ton livre commence par
une affaire, enfin une affaire, quelque chose que j'ai vu, quoi. Voilà. qui m'a beaucoup questionné. En l'occurrence, des employés de l'ambassade de France à Luanda.
Complètement ivre, bourré.
Ivre mort dans une boîte à Luanda. Et donc j'interroge.
Avec un comportement inapproprié.
Voilà, on va dire inapproprié, bien sûr, mais bien sûr, ils étaient trop sous. Donc, de toute façon, ils n'avaient plus de filtre. Mais surtout, je me suis dit, est-ce que. Enfin, moi, je suis français, donc ces gens me représentent.
Oui.
Et donc, c'est là où je pose la question. Je dis, moi, sur ces histoires de mœurs, quand j'ai commencé à travailler dessus, et j'ai sorti d'abord des affaires dans les journaux avant le livre, il était hors de question que je juge la vie privée des gens. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Simplement là, on est dans le cadre d'une représentation. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont payés par les Français pour les représenter dans un pays étranger. Et donc, ils ont eux-mêmes en interne un code de déontologie.
Tout à fait.
Dans lequel, notamment, l'ivresse
en public
est interdite. Bien sûr, ils doivent respecter les lois locales, ce qui n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, le recours à la prostitution est banni. Tout ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les pays africains des anciennes colonies, en fait, on se permettait des choses que probablement on ne se permettrait pas dans d'autres pays, sur d'autres continents, que ce soit le continent américain, que ce soit en Europe. Pourquoi ? Parce que certainement qu'il y aurait des suites judiciaires ou ce genre de choses.
Sans compter la mauvaise publicité.
Et bien sûr, sans compter la mauvaise publicité. Et je me suis et l'autre chose aussi, en discutant avec des anciens agents de la DGSE, m'explique aussi que c'est que leurs homologues des pays dans lesquels sont en mission les diplomates français, surveillent ces diplomates français. Et donc, si ces diplomates français ont des comportements illégaux, inappropriés, comme j'utilise souvent ce terme, pour être gentil, entre guillemets, ça peut devenir une source de chantage.
Tout à fait.
Et donc, en fait, ils mettent en péril non seulement leur mission, et bien sûr, donnent une image de la France et des Français qui n'est pas celle que probablement nous, en tant que Français, souhaiterions avoir. Et parfois, ces comportements vont si loin dans certains pays qu'il y a des drames. Et donc j'en arrive à une partie, effectivement, d'enquête que j'ai réalisée sur la Centrafrique. Centrafrique qui est un pays, malheureusement, qui va de guerre civile en guerre civile, qui est très instable, où la France s'est toujours sentie chez elle jusqu'à très récemment, puisque maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Mais
c'est plutôt Wagner.
Voilà. Et donc, pensait que finalement, ils étaient inamovibles et que voilà. Et qui finalement n'a pas fait grand-chose pour améliorer
le
quotidien des Centrafricains et le contexte sécuritaire et la démocratie et ce genre de choses.
Alors, il y a un dossier noir sur la Centrafrique de survie. Si vous voulez le lire, vous saurez ce qu'il faut savoir sur la Centrafrique.
On retrouve... Donc, du coup, ce pays concentre un petit peu... Bangui concentre un peu tous ses comportements inappropriés, illégaux de nos diplomates. C'est assez hallucinant en réalité. J'en ai raconté qu'une petite partie. Il y a vraiment des choses assez incroyables. À tel point qu'un grand ambassadeur expliquait dans une lettre que j'ai récupérée qu'il renvoyait deux de ses employés puisqu'ils se mettaient en danger tellement ils avaient des comportements inappropriés. Donc vraiment, on est dans quelque chose d'assez incroyable. J'ai discuté avec une chercheuse qui a étudié plus largement les expatriés à Bangui, français, et dans le cas dans ces expatriés, il y avait aussi des diplomates, et donc qui raconte des choses assez extraordinaires et assez tristes. Et donc il se trouve que il y a eu une affaire qui a été plutôt étouffée dans une emprise, ce qu'on appelle une emprise diplomatique à Bangui. Donc en fait, c'est une emprise où il y a des logements dans lesquels sont logés les diplomates, certains diplomates, on va dire, de l'ambassade, des militaires de l'ambassade, donc qui sont qui travaillent à l'ambassade directement, des volontaires internationaux, ce genre de choses. Et donc c'est une enclave qu'on appelle sous emprise diplomatique, et dans cette enclave il y a une piscine. Et régulièrement, le week-end, voire la semaine, il y a des grandes fêtes où
l'alcool coule à flot.
L'alcool bien sûr coule à flot, ils se sentent sécurisés, à l'abri des regards, puisqu'il y a des hauts murs qui cachent cette emprise diplomatique. Bien sûr, ils se sentent intouchables de par leur statut aussi. Leur statut pour certains diplomates, d'autres militaires, etc., dans un pays qu'ils considèrent finalement comme étant chez eux. Et souvent, lors de ces fêtes, il y a des jeunes femmes centrafricaines qui viennent, qui sont invitées à participer à ces fêtes. Et donc, je raconte l'histoire de l'une d'elles, Vanessa, qui était une étudiante, qui a été invitée par l'une de ses copines, qui avait été invitée, qui avait connu certains militaires lors de soirées à Bangui. Et donc, elles arrivent dans cette emprise diplomatique. La journée se passe, tout le monde est très, très, très aviné. Et puis, à un moment donné dans la soirée, Vanessa disparaît. La dernière fois qu'on la voit, elle est dans la piscine avec l'un des militaires français. On la cherche et finalement, on la retrouve au fond de la piscine, noyée. On la ressort, on essaie de la réanimer, ça ne marche pas. Au final, les gendarmes centrafricains viennent. Le corps est emmené, on interdit la famille de voir le corps. Une autopsie est réalisée par le médecin de l'ambassade de France. Donc on peut se poser des questions sur la neutralité.
Tout à fait.
On décrète dans cette autopsie qu'elle est morte noyée en 30 secondes, ce qui, selon beaucoup de spécialistes, estime que pour une adulte, c'est quasiment impossible. 30 secondes, c'est trop rapide. Donc beaucoup de questions se posent autour de cette noyade. Est-elle accidentelle ? Probablement. Avait-elle bu ? On ne sait pas, puisqu'on n'a pas eu les résultats toxicologiques.
Et en plus, on ne répond pas à l'avocat de la famille.
Et la famille saisit un avocat pour avoir des réponses à ces questions. L'avocat saisit la justice. L'avocat s'adresse à l'ambassade de France, souhaite que la police centrafricaine puisse avoir accès aux témoins, et notamment aux témoins français, et notamment au dernier témoin, le militaire français qui était dans la piscine avec cette jeune femme. Ce qu'on lui oppose un non catégorique, grosso modo, on fait un déni de justice, clairement. Ce militaire est finalement rapatrié en France, où on l'interroge, puis renvoyé en Centrafrique, où il termine sa mission sans aucune encombre. Voilà la réalité, en fait, parfois, du comportement de personnel diplomatique.
De l'ambassade.
Voilà. De l'ambassade de France.
Et voilà ce qu'on risque en allant à des soirées à l'ambassade.
C'était pas l'ambassade, hein, c'était une emprise diplomatique, ce que j'appelle.
Mais ça revient au même.
C'était des logements.
Voilà. Bien. Alors, on parle. Tu cites Pascal Blanchard, qui a cette expression. J'avais lu dans son livre Race et colonie, qui dit qu'il y a un porno colonial.
Oui, alors du coup. Quand j'ai voulu aller plus loin que le simple fait de chroniquer des affaires, finalement, de mœurs, j'ai voulu aller plus loin en m'interrogeant qu'est-ce qui explique ce comportement décomplexé. On peut parler de ça aussi. Est-ce que c'est spécifique, finalement, à l'Afrique et aux Africains et aux Africaines? Et en lisant effectivement Pascal Blanchard, qui a fait un grand travail là-dessus, sur la représentation à travers les photos de l'époque coloniale, ce genre de choses, à travers les travaux de certains chercheurs, j'en cite une, Magdalena Brandt, qui a fait un travail énorme aussi là-dessus, sur la perception qu'ont les expatriés français, en fait des Africains et des Africaines, du corps, de leur rapport en fait au corps. Et on se rend compte qu'en fait, on est encore dans cet héritage colonial. C'est-à-dire que le porno colonial, comme l'explique Pascal Blanchard, en fait, est très tôt, il y a des photos de femmes africaines nues, des cartes postales avec des femmes africaines nues qui sont envoyées par les colons dans la métropole française. Et ces photos circulent librement. Donc comme si le corps, finalement, d'une Africaine ou d'un Africain n'avait pas la même pudeur que le corps d'une Française ou d'une Blanche. Et donc, en fait, très tôt, on a mis dans l'esprit des Blancs et des Français, en tout cas pour le cas qui nous occupe les Français, que bah, finalement ce corps africain était disponible.
Voilà, accessible.
Accessible et disponible. Et je cite, c'est, en fait c'est la chercheuse qui le cite dans son étude, donc je le remets dans mon livre, où un médecin français dit... en fait, ici, c'est bizarre. Enfin, il dit pas c'est bizarre. Il dit ici, on peut toucher les fesses d'une femme,
même mariée.
Mmh. C'est facile, ça n'a pas de conséquences. C'est, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment donné, il dit peut-être que c'est la colonie. Mmh. Donc en fait, il touche du doigt finalement le problème. Mais pour autant, on assiste encore aujourd'hui à ces scènes.
Pratique,
ouais. Voilà, je conseille cette thèse de cette chercheuse qui s'appelle Boxe Bangui, mmh. qui est une thèse extraordinaire. Mais voilà où on en est, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une déconstruction du regard porté de manière générale par l'ancien colon sur les Africains et les Africaines, on continuera d'avoir des comportements inappropriés. Et c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas, notamment en Amérique, ou, etc. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout la même perception, finalement, mmh. Du corps de l'Africain et de l'Africaine.
Alors, l'opération Sangaris en Centrafrique, il y a eu des viols. C'est une enquête de l'ONU, et tu le précises bien, qui l'a mis en avant. Djibouti, c'était le dernier bordel militaire de campagne.
Oui, qui a fermé au début des années 2000. Mmh.
Voilà.
Même presque, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est 2008 ou quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, tout à fait. Sans compter les affaires de pédophilie.
Oui, alors j'en révèle pas, hein, mais par contre, certaines ont été chroniquées. J'ai retrouvé quelques affaires aussi judiciaires dans les journaux. Oui, on est dans le même principe, c'est-à-dire que on pense qu'on peut se servir, voilà. Mmh. Et on trouve, en fait, c'est la diplomatie, en tout cas le milieu de la diplomatie, c'est une société humaine et on trouve des gens avec des comportements comme dans n'importe quelle société. Et donc, quand il y a quelqu'un qui a des penchants pédophiles, alors j'expliquerai après ce qui m'a le plus choqué, mais enfin, la pédophilie est choquante en elle-même, mais quand il se retrouve en Afrique, vu qu'il se sent chez lui, mmh. c'est finalement le supermarché.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, il se sert. Et le pire de tout ça, et ça, par contre, je l'explique et je le raconte parce que j'ai eu des témoignages, c'est que souvent, ces comportements sont sus. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'institution du Quai d'Orsay apprend que tel diplomate a ces comportements-là, il ne le sanctionne pas. Il le déplace. Au pire, il le rapatrie à Paris. Et donc je cite un ancien gendarme d'ambassade qui me raconte une histoire au Mali fin des années 80.
Il a dû menacer d'arrêter
lui-même, donc auprès de l'ambassadeur, un diplomate qui avait des comportements pédophiles. Il a dû menacer de l'arrêter lui-même pour que l'ambassadeur décide enfin de renvoyer ce diplomate en France. Donc on est vraiment dans quelque chose. Alors évidemment aujourd'hui peut-être que les choses changent un peu puisque avec Internet, les réseaux sociaux, les choses se savent un peu plus, mais il y a une cellule notamment qui a été mise en place au Quai d'Orsay pour recueillir les témoignages de harcèlement ou de comportement ou quelqu'un qui aurait vu quelque chose. Mais il y a encore une extrême difficulté finalement à sanctionner judiciairement, puisque ces affaires devraient être portées en justice,
tout à fait.
Lorsque ces comportements sont constatés. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, doit changer. C'est-à-dire que l'institution doit absolument se réformer, au moins, enfin, sur beaucoup de choses, mais notamment à ce niveau-là. Quand l'un de ses diplomates a un comportement judiciairement condamnable, il doit être condamné. Voilà. En tout cas, il doit faire l'objet d'un procès.
Alors, les ambassadeurs...
D'une enquête, pardon.
Voilà. Oui, les ambassadeurs, ils ne font pas que nous représenter aussi mal soit-il, ou écrire leur mémoire. Ils se servent dans la caisse, ou dans le...
Ça arrive.
Et ils pantouflent carrément. Enfin,
ah,
je veux
oui.
dire, c'est...
Et ça, c'est...
je veux dire, quand on lit ton ouvrage, on est scié. Ils se comportent, mais vraiment mal.
Oui, alors, sur le fait de se servir un peu dans la caisse, je conseille aussi le livre de Vincent Jovert hein, sur
oui.
La face cachée du Quai d'Orsay.
Tout à fait.
Où il dévoile quand même un certain nombre d'affaires assez extraordinaires.
Ouais.
Voilà. Moi, je me concentre sur l'Afrique et je me rends compte que sur l'Afrique, c'est la même chose finalement dans les ambassades de France. Alors, Moi, je trouve qu'il y a aussi un que c'est presque, enfin, c'est pas plus grave, un détournement d'argent est un détournement d'argent public. Mais quand on est dans un pays où la majorité des gens vivent avec moins de $2 par jour,
voilà,
et qu'on a un ambassadeur qui distribue des grands crus à plusieurs milliers d'euros de la cave pour son pot de départ, on peut se poser, on peut se dire, il y a quand même quelque chose qui cloche.
Oui.
Tout cet argent ne serait-il pas mieux dépensé pour autre chose?
Tout à fait.
Quand on voit aussi comment ils se comportent avec leurs employés de maison, avec qui sont très mal payés, en tout cas pas à la haute, enfin voilà.
C'est de 1 à 400.
Voilà, c'est le rapport que j'expliquais. On est quasiment de 1 à 400. Enfin, voilà, on se dit, bon, il y a un problème. Voilà. Ouais. Et comme si ça ne suffisait pas, effectivement, ils détournent en plus un peu d'argent. Enfin, certains.
Il n'y a pas de petites économies.
Voilà, et c'est ce que j'écris, il n'y a pas de petites économies. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, effectivement, les ambassadeurs qui, à la fin de leur carrière, ont finalement un carnet d'adresses extrêmement large, extrêmement important. Ils ont... Et essentiellement dans les anciennes colonies africaines, ils ont en plus accès assez facilement aux plus hauts dirigeants du pays,
au palais.
Y compris le président, le palais. Voilà. C'est un avantage certain que d'avoir cet accès et d'avoir ce carnet d'adresses. C'est un carnet qu'on peut monnayer.
Et ils s'en privent pas.
Et donc ils s'en privent pas. C'est-à-dire que beaucoup, une fois à la retraite, décident de monter des affaires, des cabinets de consultants. On est souvent dans le conseil, le consulting. Parfois, on se fait embaucher par une grande entreprise française qui a des intérêts en Afrique.
Total.
Alors, Total, Elf l'avait inauguré il y a longtemps. Total, encore aujourd'hui, mais aussi CMA-CGM, le grand armateur, qui du coup a pris quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire. Et donc, pour l'accès au port en Côte d'Ivoire, on imagine bien que ça facilite les choses.
Tout à fait.
Et puis d'autres aussi qui vont carrément faire du conseil sur un domaine dans lequel ils ont été les spécialistes pendant des années.
Michel de Bonnecorps, pour ne pas le citer.
Alors, je pensais pas à lui, je pensais à quelqu'un de beaucoup plus contemporain.
Alors, qui ça, Jean
Le Boisseux ? Sur les visas.
Ah oui.
Voilà, qui a monté sa boîte de consulting, qui était consul à Abidjan. Il s'appelle De Jager, monsieur De Jager, qui il a accepté de me parler. Donc il m'a parlé très simplement, il m'a raconté ses activités. Mais donc lui, il était consul pendant des années, Alger, Côte d'Ivoire, entre autres. Et donc la question des visas, les procédures de visa, c'est quelque chose, c'était son métier. Donc il connaît très bien. Eh bien, il est devenu consultant pour les sociétés privées. Aujourd'hui, qui la plus grande société privée qui aujourd'hui
sous-traite
à qui la France sous-traite la procédure des demandes de visa. Voilà.
Eh bien, ça va être une très bonne transition parce qu'on va parler donc de ce que tu appelles très précisément la politique migratoire, un business en or.
Oui.
Ça, je savais pour avoir des amis qui font la queue et qui ont besoin que je leur envoie les documents pour pouvoir avoir leur visa. Je savais qu'il y avait des problèmes et du trafic, mais ce que tu décris est absolument hallucinant.
Oui. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller sur Afrique 21, puisque après la sortie du livre, j'ai sorti d'autres articles, d'autres enquêtes.
Tout à fait.
Pour suivre un peu cette histoire, puisque je trouve que c'est un point... Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que avant la privatisation, ce que j'appelle la privatisation des visas, c'est-à-dire avant qu'on recourt à des sociétés privées qui aujourd'hui font l'interface entre le consulat et les demandeurs de visas, finalement le contact, le seul contact qu'avaient quasiment les demandeurs de visas, en tout cas les locaux, avec l'ambassade de France, souvent c'était le consulat, puisque c'est là qu'ils allaient déposer leur demande de visa, c'est là qu'ils espéraient pouvoir
avoir le précieux sésame,
le précieux sésame pour venir en France, souvent rejoindre de la famille, étudier
ou se faire soigner,
ou simplement venir en vacances. Et donc du coup c'était vraiment ce contact direct, c'était le seul contact direct qui existait. Et la France a décidé de se séparer de ce contact, en fait, d'éloigner finalement les locaux de ces ambassades. Ils considéraient qu'il y avait trop de queues devant les consulats,
que ça faisait mauvaise presse,
etc. Il faut dire que voilà, on refuse beaucoup de visas et donc il y a des réclamations, ce genre de choses, etc. Donc on a voulu s'affranchir de ça et donc on a décidé de faire des appels d'offres et de sous-traiter la constitution du dossier de demande de visa à des sociétés privées. L'une des plus importantes au monde qui s'appelle VFS Global, qui est en fait suisso-indienne mais installée à Dubaï, qui a des comptes dans les paradis fiscaux.
Tout à fait.
Comme l'autre d'ailleurs, qui s'appelle TLS Contact, qui est une filiale d'une entreprise de téléphonie qui s'appelle Téléperformance.
Tout à fait.
Et qui aussi fricote avec les paradis fiscaux. Enfin voilà, on est dans ce système et la France décide de sous-traiter ça
à des sociétés opaques.
À ces sociétés. Alors, ces sociétés, on peut leur donner juste un avantage, c'est qu'elles ont mis en place une procédure extrêmement efficace. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai pu constater, puisque je suis allé dedans, j'ai enquêté et j'ai fait un reportage au sein d'une de ces sociétés à Dakar. Donc, en fait, la procédure était extrêmement bien huilée et c'est vrai que les gens attendent moins qu'avant. Par contre, là, le revers de la médaille, c'est que la France a décidé de faire peser le coût de ces sociétés sur les demandeurs.
Tout à fait.
Donc, en fait, pourquoi un business en or ? C'est qu'avant, le demandeur, il allait directement au consulat, il payait le prix de son visa, qui était d'environ 60 euros, et c'est tout. Aujourd'hui, le demandeur va dans une société privée qui lui prend 30 euros pour constituer son dossier, et il doit encore payer en plus son visa. Et quand le dossier est refusé, rien n'est remboursé.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que la France prend de l'argent, et ses sociétés privées prennent de l'argent, à des demandeurs qui, au bout du compte, n'ont pas eu le service demandé.
Tout à fait.
Donc c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème, et d'ailleurs on entend de plus en plus de remontrances, et on entend à la dernière rentrée universitaire de septembre, il y a eu des blocages extrêmement importants dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Auprès des étudiants qui avaient pourtant leur dossier complet, etc. Ils n'ont plus de contact avec l'ambassade, donc en fait on leur retourne un papier avec une coche où on dit il manque un document, sans préciser lequel, pourquoi, comment. Et ils se retournent vers la société privée qui leur dit c'est pas nous qui décidons, c'est le consulat. Donc en fait, ils sont perdus. Il existe un recours possible, mais qui est à Nantes. Donc en fait, on sait très bien et qui est extrêmement compliqué. De l'aveu même d'un ambassadeur, ce recours est pratiquement inaccessible pour la plupart des demandeurs de visa en Afrique. Et j'ajoute enfin, pour terminer sur cette question, c'est que il y a une réelle volonté de limiter le nombre de visas délivrés aux Africains.
Tout à fait.
Ils ne le disent pas, c'est pas écrit nulle part, mais quand on compare les chiffres, c'est assez effarant. En fait, on a en moyenne 30 à 35% de refus des demandes de visa en Afrique, contre par exemple 8% en Chine. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une politique, clairement, de refus des visas en Afrique, et une politique qui coûte très cher aux Africains. Puisque pour certains, ce sont une demande, deux demandes, trois demandes, des milliers d'euros avancés aussi pour pouvoir avoir un logement sur place pour les étudiants.
Tout à fait.
Ce genre de choses. Des gens qui s'endettent pour venir, oui, et qui au final n'ont pas leur visa.
Non. Donc, les ambassades de la France-Afrique, l'héritage néocolonial.
Colonial, l'héritage colonial.
Oui, le lapsus.
Colonial. Lapsus.
Colonial de la France. Aux éditions Luxe, j'aimerais revenir sur l'interview que tu donnes pour Habillé d'Afrique et d'ailleurs de survie sur les ambassadeurs. On va finir par sur les ambassadeurs. On voit de plus en plus des ambassadeurs qui se permettent ouvertement de devenir les lobbyistes des présidents en place. Est-ce qu'on se rend compte que ça a eu un effet désastreux et que quand ces présidents ont été dégagés, je pense au Mali, au Burkina Faso, la France a dû plier bagage ?
Alors c'est certainement plus complexe, mais...
Mais le résultat est là.
Mais il est vrai que, pour être bien clair, on vit un moment où la France, à juste titre, se fait reprocher sa politique en Afrique. Et donc, il est évident que le premier endroit où on va manifester son mécontentement, c'est l'ambassade. Et donc, aujourd'hui, dans certains pays comme le Mali ou le Burkina Faso, pour les pays les plus récents, quand on veut marquer un acte fort pour reprocher quelque chose à la France, on s'en prend à l'ambassadeur. Et en l'occurrence, au Mali, il a été renvoyé, au Burkina Faso, il a été renvoyé.
Donc, tout à fait.
En fait, on se retrouve. Donc, en fait, l'ambassadeur reste finalement le symbole de la politique française en Afrique, et à juste titre. Certains, effectivement, ont été très loin dans leur connivence avec certains dictateurs.
Je pense à ceux qui sont succédés au Gabon.
Il y a ceux-là, je pense à un autre qui est Yves Omnès au Cameroun,
tout à fait.
qui avait son bureau au palais présidentiel. D'ailleurs, encore très récemment, c'est un autre tableau de mon introduction où je raconte que très récemment l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, Guilou, venait faire un point avec le président au palais d'Etoudi tous les mois. Donc en fait on a cette proximité extrêmement forte de l'ambassadeur qui est en fait le bras armé de la France et de la politique française en Afrique. Et donc il est évident que dans un moment de crise et de crispation où, encore une fois, à juste titre, on reproche le comportement de la France dans certains pays, eh bien, la première personne à qui on s'adresse, c'est l'ambassadeur. Mais c'est normal, l'ambassadeur est là, finalement, pour représenter son pays. Et donc, si on n'est pas content, c'est lui qu'on va voir. Et donc, certains, effectivement, au Mali, on lui a reproché notamment d'avoir...
Tenu des propos déplacés.
Oui, enfin, surtout d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Ce qui n'a... Très honnêtement, aucun fondement, je le pense. C'est-à-dire, je pense que cet ambassadeur n'a absolument pas cherché à fomenter un coup d'État.
Il ne s'en serait pas lavé les mains.
Alors peut-être que ça aurait arrangé la France qu'il y ait un coup d'État, mais ça ne veut pas dire que l'ambassadeur lui-même avait souhaité fomenter un coup d'État. Je pense que c'était une fausse information. Mais peu importe finalement. L'important, c'est le résultat. C'est qu'au final.
Les propos
du président à l'encontre de cet ambassadeur ont été considérés comme crédibles par une grande part de la population.
Oui.
Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, le passé de la France, c'est-à-dire tous ces coups fourrés, ces coups d'État fomentés avec l'aide de la France, certains assassinats politiques, etc., eh bien, ressortent aujourd'hui. Mmh. Et aujourd'hui, on n'a plus confiance. Les populations africaines n'ont plus confiance et estiment estiment que c'est possible. Effectivement, qu'un ambassadeur de France fomente un coup d'État.
Ouais.
Donc c'est ça que ça dit, en fait. Et je trouve que, pour le coup, Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de dire « la France-Afrique, c'est terminé », hélas, il le dit, mais en fait, dans les faits, c'est pas le cas. Mais oui, la France a dû plier bagages au Mali, en Centrafrique, et au Burkina Faso, c'est très tendu. L'ambassadeur est parti, mais les relations ne sont pas complètement coupées.
Alors, au Sénégal, on apprend depuis hier... que Macky Sall déclare qu'un troisième mandat, c'est pas compliqué. Donc, on va voir l'attitude de la France, de l'ambassadeur de France au Sénégal. Je veux dire, la Côte d'Ivoire, Ouattara est en fin de règne. Et Macron a fait son voyage en Afrique. Il est allé au Gabon, où il y a eu une tragédie avec un ferry surchargé où il y a eu des morts. Il est allé au Congo-Brazzaville et au Congo-RDC. Quid des ambassadeurs sur place?
Mais je pense qu'ils sont dans une situation actuellement,
oui.
Dans une situation extrêmement compliquée. Je pense qu'ils voient très bien que la moindre parole pourrait être jugée, déplacée et être sanctionnée par les populations, je parle, africaines. Donc je pense qu'en fait, s'ils ont bien appris la leçon, on va dire, je pense qu'ils vont essayer d'être relativement discret.
Ah.
Sauf que on voit dans d'autres pays, parce que tu citais certains pays, mais moi je vais citer le Niger,
oui.
Où un ambassadeur de France a été nommé récemment, qui s'appelle Sylvain Ité. Et ce Sylvain Ité est à peine arrivé qu'il avait déjà fait un certain nombre de bourdes. À tel point que le Niger est devenu la base de repli quasiment de l'armée française avec le Tchad. À tel point qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, mais s'il continue comme ça, la population va se lever et va faire partir. Et il a eu un échange très virulent qui a tourné sur les réseaux sociaux avec un militant, un activiste nigérien, lors d'une conférence auprès d'étudiants où il en est presque venu aux mains. Donc en fait, on voit que, moi je dis, a priori, s'ils ont appris la leçon, ils vont être un peu plus discrets. Et on voit que certains, en fait, n'ont pas appris la leçon. Au Sénégal, sur la question du troisième mandat de Macky Sall, évidemment, ça va être très compliqué. Puisque la France a admis que Alassane Ouattara pouvait faire un troisième mandat.
Donc Macky Sall,
comment vont-ils se comporter
face
au troisième mandat de Macky Sall, éventuel de Macky Sall? Je pense qu'il y aura, comme en 2012 avec Abdoulaye Wade, des questions constitutionnelles, on va se renvoyer la balle, parce que Macky Sall a changé la constitution, faisant passer le mandat de 5 ans à 7 ans, et donc, et ce qu'avait fait Abdoulaye Wade dans l'autre sens,
tout à fait.
Et justifiant que ce n'est pas la même constitution, donc on n'est pas sur un troisième mandat, mais un deuxième mandat, rapport à cette constitution. Donc, à mon avis, il y aura une bataille constitutionnelle. Verra-t-on certains spécialistes français venir à Dakar pour défendre cette question constitutionnelle au même titre qu'avec Abdoulaye Wade en 2012, parce que c'est quand même assez hallucinant de voir des constitutionnalistes français venir défendre le...
Oui, mais il faut dire que les constitutions africaines sont calquées,
Elles sont calquées sur la
constitution de la France. Laquelle, 5e République, histoire de rigoler, à 64 ans cette année. Elle est bonne à aller à la retraite, peut-être.
Il est temps qu'elle prenne sa retraite. Mais c'est intéressant. Moi, je vais suivre ça de près, c'est-à-dire de voir un petit peu comment les ambassadeurs vont se comporter là-dessus. Je pense que, de toute façon, ils attendent quelque part les ordres un petit peu de l'Élysée. Hein. Ils n'ont pas une totale marge de manœuvre. Ils sont obligés de. Voilà. Mais je pense, en tout cas, moi, je pense qu'ils devraient se faire très discrets. Et laisser finalement les peuples décider.
Oui, voilà. Ce serait bien la première fois qu'ils se montreraient discrets et qu'ils laisseraient les peuples décider en Afrique. Donc ce serait l'enterrement de la France-Afrique sans fleurs ni couronne. J'espère le voir de mon vivant.
Oui. En tout cas, que les peuples décident de leur destinée,
c'est la moindre des choses. Merci Michael.
Merci beaucoup Marianne.
Je rappelle le titre de ton ouvrage, excellent, Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, chez Lux. Alors, son prix c'est 18, si mes souvenirs sont exacts, 18 euros. C'est un livre de la collection Les dossiers noirs de la politique africaine de la France.
En Afrique,
et dirigé par l'association Survie, dont le site internet est survie.org. Donc, et on peut, sur le site de l'association, lire ton excellente interview qui a été parue dans le numéro 320 de septembre 2022. Parce qu'il faut savoir que Survie a comme politique de mettre en accès libre les anciens numéros de billets d'Afrique et d'ailleurs, et de ne conserver comme en accès payant que les numéros de l'année en cours. Donc on peut regarder ton excellente interview et qui a pour titre « La diplomatie au service de la France-Afrique ». Voilà. Donc j'ai donné toutes les informations.
Et je vous invite à aller sur le site d'Afrique 21.
J'allais
en chiffres romains, voilà. Alors, pour lire notre travail. Ouais.
Voilà. À Rémi Carayol et à toi.
Voilà.
Voilà. Alors Rémi Carayol, je rappelle.
Et beaucoup d'autres auteurs. Hein.
Voilà. Je rappelle que je l'avais reçu pour Barkhane et Serval, et l'émission est sur le site du groupe Louise Michel. Merci beaucoup, Michael. Merci à Vanna pour la technique. Merci à Julie d'être passée nous voir. Je vous rappelle que Publico, le siège de la FA et la librairie où vous pouvez acheter le livre de Michael Poron est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkampf, Fille du Calvaire et République. À dans 15 jours.